France Culture.
Ce 24 décembre, nous partons à la recherche du sommeil perdu.
Louise Tourret.
Nous dormons tous moins et les ados sont épuisés, en partie parce qu'ils commencent les cours trop tôt. Alors comment changer les emplois du temps? Comment faire évoluer le regard sur le sommeil pour bien apprendre, bien grandir et bien vivre? Réponse mercredi avec nos invités.
Être et savoir. Mercredi à 14h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Demain 25 décembre, il n'y aura pas d'épisode d'Avec Philosophie. L'émission reprend la semaine prochaine. Géraldine Mosna-Savoie vous présentera une série consacrée au pédopsychiatre anglais Donald Winnicott. Série intitulée Winnicott, un psy suffisamment bon. C'est un clin d'œil à l'expression de Winnicott, une mère suffisamment bonne, point qui sera d'ailleurs l'objet du premier épisode lundi. Vous êtes à l'écoute de France Culture, il est 11h, l'heure de Culture Monde. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Jeux
vidéo. On continue
vidéo.
Notre série voilà, sur les jeux vidéo. On parle aujourd'hui des questions de représentation dans les jeux vidéo, cette forme de bataille culturelle qui se joue aussi dans les jeux vidéo.
Vous avez dû donner des idées de cadeaux de Noël, je suis sûre.
Ah, je ne sais pas. On verra les chiffres, mais l'industrie se porte bien. Donc,
bonne émission.
Merci. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Inès Bouffartig, Sébastien, Anouk Millot et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Des joueurs de Candy Crush sur leur téléphone aux professionnels de l'e-sport, la pratique du jeu vidéo a fait de cette industrie culturelle la première mondiale. Cette semaine en Culture Monde, une série pour comprendre les enjeux économiques, géopolitiques de ce secteur, mais aussi culturels, la question des représentations, des personnages ou des situations.
Are games racist?
Est-ce que les jeux sont racistes?
Yeah.
Mais pas pour les raisons auxquelles vous pourriez penser. Le racisme, c'est quand même un truc. Ça concerne Custer's Revenge, Liputu dans Pokémon, Resident Evil 5 et à peu près tous les personnages de Street Fighter.
Life is Strange est un jeu qui, si l'on en croit Wikipédia, a reçu des critiques globalement positives à sa sortie. Les critiques ont loué le scénario. On peut donc conclure que la barre est très basse dans cette industrie. Tout ce que les développeurs ont à faire, c'est d'assommer leur audience avec de la propagande de gauche pourrie et leur jeu recevra de bonnes critiques.
C'est comme de dire que l'art doit se limiter à ce qui nous ressemble, ce que je trouve qui est un propos très réducteur. L'art doit capturer la richesse et la diversité de notre monde. Donc, il y a beaucoup cet aspect-là dans le jeu qui revient de mettre de côté nos différences pour créer un meilleur monde.
Ainsi a dû se justifier en début d'année Marc-Alexis Côté, le producteur exécutif du jeu Assassin's Creed Shadows, suite à plus de 800 000 critiques formulées sur différents réseaux sociaux et forums d'utilisateurs. Ce jeu, édité par Ubisoft, se déroule dans le Japon du XVIe siècle et parmi les personnages jouables, comme on dit, se trouve un samouraï noir. Encore un jeu woke qui fait plaisir à tous les gauchistes de la planète, ont affirmé sûr de leur fait les gamers connus pour être les plus virulents sur ces questions. Sauf que ce samouraï noir, Yasuke Kurasan, a vraiment existé, esclave africain, passé entre les mains de colons portugais, de jésuites italiens, puis d'un chef de guerre japonais qui l'a franchi. Alors les historiens ne sont pas sûrs à 100% que ce chef de guerre, Oda Nobunaga, l'ait véritablement élevé au rang de samouraï. Toujours est-il qu'il intégra dans ses rangs cette force de la nature d'1m80, comme le raconte notamment un père jésuite, Louis Froïs, en 1586. Comme souvent désormais au XXIe siècle, les polémiques sont lancées par une poignée de personnes dont l'écho se propage à une vitesse folle sur les réseaux sociaux. Ça avait déjà été le cas en 2014 avec ce qu'on avait appelé le Gamergate, le harcèlement massif de femmes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo et que des joueurs accusaient de changer la nature de leur jeu en les faisant plus inclusifs. Comment les studios se saisissent de cette réflexion sur la diversité, le racisme ou le sexisme? Dans quelle mesure en font-ils aussi un argument de vente? En quoi les communautés en ligne jouent un rôle dans l'appropriation politique des jeux? Nous en parlons avec nos deux invités. Bonjour Mehdi Derfoufi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en études culturelles à l'Université Paris 8. Vous avez écrit « Racisme et jeux vidéo », un livre paru il y a 4 ans aux éditions Maison des sciences de l'homme. Nous sommes également avec Julie Le Baron. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes rédactrice en chef de Canard PC. C'est un magazine en ligne sur les jeux vidéo qui traite avec sérieux et beaucoup d'humour les actualités liées aux jeux. Julie Le Baron, d'ailleurs, quels sont les derniers débats? Alors même si parler de débats, c'est faire un peu trop d'honneur à ces discussions souvent très outrancières sur les réseaux, disons les dernières polémiques en date que vous avez eu à couvrir ou choisi de couvrir, est-ce que la polémique sur Assassin's Creed Shadow a déjà été chassée par une autre?
Alors, je dirais plutôt que la dernière polémique en date, elle précède celle d'Assassin's Creed Shadows. Elle a eu lieu l'année dernière et elle concerne une société québécoise de conseil qui s'appelle Sweet Baby Inc. Et qui a travaillé sur des gros jeux, donc autrement dit des triple A, et qui ont été, qui a été accusé d'avoir notamment contraint certains studios de jeux vidéo à être plus inclusif, à intégrer des personnages issus de minorités visibles. Et alors en l'occurrence, c'est pas du tout le travail de Sweet Baby Inc. qui s'assure plutôt en fait de faire un travail de réécriture, de consultation en narration. En tout cas pour s'assurer que des lignes de dialogue pour des PNJ soient bien écrites, assurer de la relecture et faire de la rédaction complémentaire sur des jeux qui ont déjà été écrits par les studios. Ils arrivent disons en bout de production.
Pourquoi est-ce que c'est la sortie d'un jeu Marvel Spider-Man 2 sur PS5 qui a tout déclenché? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeu? Qu'est-ce qu'on y voit et comment ça a réveillé la communauté d'internautes toujours très prompte à donner à émettre des jugements sur les réseaux et à appeler au boycott de jeux?
Oui, alors en fait, tout est parti du fait que le studio soit cité dans les crédits de certains jeux. Donc, vous avez cité Marvel Spider-Man 2. Il y a aussi eu le cas de Alan Wake 2, God of War Ragnarok ou encore Assassin's Creed Valhalla. Et donc, il y a eu un groupe sur Steam, donc qui est la plateforme de jeu la plus utilisée des joueurs PC, et un serveur Discord, qui est donc une plateforme de messagerie qui est très utilisée par les communautés de joueurs, qui sont mises à lister tous les jeux sur lesquels Sweet Baby Inc. avait officiellement en expliquant en gros voilà les jeux qu'il faut boycotter parce que c'est une société qui veut promouvoir son propre agenda politique. Enfin, c'était quelque chose qui tenait plus de la théorie du complot que de faits avérés.
J'avais cru comprendre que dans Marvel Spider-Man 2, certains joueurs avaient repéré un graffiti sur l'un des bâtiments du jeu qui représentait un drapeau LGBT. Il n'en a pas fallu plus pour un gamer, alors je crois qu'il est très connu dans le monde des jeux vidéo et du harcèlement en ligne, mais qui, sur le forum Kiwi Farms, d'où sont lancées apparemment plusieurs campagnes de harcèlement, il a partagé les conclusions de sa petite enquête personnelle. Voilà, le studio qui a créé ce jeu, Insomniac Games, a sollicité des consultants, une entreprise de conseil québécoise qui propose donc des consultations pour aider les studios à être plus inclusifs, donc cette société qui s'appelle Sweet Baby Inc. La société n'a pas été consultée en revanche pour Assassin's Creed Shadow. Quels sont les effets de ces polémiques sur les chiffres de vente? Est-ce qu'on peut, Mehdi Derfoufi, d'abord savoir à combien d'exemplaires ce jeu a été vendu et si les joueurs et joueuses, les gamers comme on dit dans la communauté, se sont détournés de ce jeu à cause des polémiques? Et si, à l'inverse, Ubisoft avait aussi un enjeu commercial, puisque c'est Ubisoft qui crée Assassin's Creed Shadow, un enjeu commercial à mettre en scène ce samouraï d'origine africaine dans le Japon impérial?
Alors, il y a une partie de la question à laquelle je ne pourrais pas répondre, parce que les chiffres, je ne les ai pas en tête. Je pense que c'est un jeu qui était un peu stratégique pour Ubisoft à ce moment-là, au moment de sa sortie. Ils en attendaient un retour important, donc ils ont été très prudents, ils ont retardé la sortie du jeu, etc. Enfin bon, parce qu'à cause de la polémique qui avait éclaté avant.
Oui, je vous prie de m'excuser. D'ailleurs, c'est vrai que ça aurait été plus logique de le demander à Julie Le Baron, qui a peut-être les chiffres plus précis des sorties de jeu.
Oui, pour répondre à ça.
4 300 000 exemplaires vendus en 7 mois de ce que j'ai lu, en tout cas pour ce jeu. Donc a priori, c'est pas une catastrophe, même si c'est moins que les précédents opus. Alors sur la stratégie Mehdi Derfoufi plus commerciale aussi qu'il y a pour Ubisoft de mettre en avant ces questions d'inclusion.
Oui, bon, c'est une multinationale qui a... moi, mon analyse, c'est qu'on s'inscrit avec cette série Assassin's Creed dans une sorte de rhétorique multiculturelle qui va permettre au studio de se positionner dans le marché global, à la fois en présentant tous les caractères, toutes les caractéristiques d'une production qui se destine au marché global, tout en étant porteur d'une certaine, coloration française, qui est celle de la défense, de l'exception culturelle, de la qualité, de la valeur artistique. Et donc, on retrouve ça à travers cette rhétorique multiculturelle qui accompagne la licence depuis ses débuts.
Avec un message d'ailleurs qui apparaît souvent au début des jeux d'Ubisoft. Pour cette image d'équipe inclusive, qu'est-ce que dit ce message ?
C'est un message, alors il a un petit peu évolué avec le temps, mais qui vient souligner que les équipes de production du jeu sont composées de personnes d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'origine ethno-raciale différente.
Alors, une question aussi de mettre en avant une exception culturelle française. Dites-vous, Mehdi Derfoufi, Julie Le Baron, est-ce que dans des pays comme en France, puisque Ubisoft est française, est-ce que d'éventuelles aides publiques peuvent dépendre de conditions de représentativité des personnages, des situations, des décors ?
En tout cas, il y a des aides, par exemple, du CNC qui ont permis à des jeux de mettre en valeur des cultures différentes, en tout cas celles qu'on est habitué à voir dans le jeu vidéo. Je pense par exemple au jeu en monde ouvert Chia qui est sorti récemment du studio Awakeb, donc dont la moitié de l'équipe est originaire de Nouvelle-Calédonie et qui met en valeur en fait l'héritage culturel de la Nouvelle-Calédonie.
Que ce soit pour dire que les studios mettent en avant ces questions et se montrent ouverts et se montrent et mettent en avant la dimension multiculturelle de leurs équipes, ou pour dire au contraire qu'ils font attention à ne pas trop choquer, à ne pas trop choquer un public plus conservateur et donc à ne pas miser beaucoup sur ces questions d'inclusivité. Dans tous les cas, on dit que ces studios mesurent ou anticipent ce que seraient les attentes du public. Mehdi Derfoufi, comment est-ce que on mesure ou anticipe ce que seraient les attentes du public ?
Il y a des études, bien sûr, ils ont leurs propres études de marché, et puis ils ont aussi les analyses qu'ils tirent à la fois des sortes de sondes qu'ils lancent, quand on fait fuiter des informations sur un jeu, quand on diffuse un trailer, etc. Bon, on a des réactions, forcément, de la communauté vidéoludique, et ça donne aussi des indications aux studios pour réorienter des choses en fonction des polémiques qui éclatent, parce que les polémiques, elles éclatent essentiellement avec la diffusion de tous ces éléments périphériques à l'expérience de jeu elle-même. Une fois qu'on joue, c'est un peu comme au cinéma, quand on est une minorité, qu'on n'est pas représenté à l'écran, on suspend temporairement ça. et son identification, et puis on va accepter de jouer le jeu pendant le temps du jeu, puis après on revient, on ressort en étant un peu plus critique sur certaines images, certaines représentations. Mais le moment du trailer, ça vient vraiment fixer une image, un discours, une représentation de façon très explicite, et ça nous permet de réagir en dehors de l'expérience de jeu. Donc c'est souvent le moment déclencheur de la polémique.
Alors l'équipe d'Ubisoft qui a créé Assassin's Creed Shadows dit ne pas avoir été surprise des réactions du public, comme le dit Marc-Alexis Côté, son producteur exécutif.
On s'attend toujours à une partie d'acceptation et une partie de rejet. Ça fait partie du métier. Avant, il y avait des rumeurs parce que quelques images clés du jeu avaient fuité. Donc, on sentait qu'il y avait une réaction à Yasuke qui pouvait se préparer. Dès les premières minutes après que la bande-annonce fut révélée, on a vu une tendance négative qui était grandissante au fil que les heures passaient. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand les attaques deviennent personnelles et violentes, invariablement, il y a une forme de racisme.
Marc-Alexis Côté, interrogé par Arte en mars dernier, Yasuke, donc ce samouraï d'origine africaine auquel Ubisoft n'a pas été le premier à s'intéresser. Netflix avait déjà consacré une série en 6 épisodes à ce personnage. Et plus proche de nous en France, un artiste franco-malien, Smaïl Kanouté, lui avait consacré un travail artistique à la MEP à Paris en 2021. Alors c'est peut-être un cas un peu à part parce qu'il s'agit d'une reconstitution historique. Mehdi Derfoufi, je rappelle, et vous le savez bien, que ce samouraï a existé et que on est dans le cadre de ce jeu dans une forme de reconstitution historique, mais est-ce que ce jeu consiste simplement à jouer le rôle d'un samouraï noir au Japon au XVIe siècle, ou est-ce qu'il va plus loin en pensant toute son aventure sous l'angle des rapports sociaux de ce samouraï noir avec ceux qu'il rencontre? En d'autres termes, est-ce que la couleur de sa peau est, dans son cas comme dans d'autres jeux où on peut choisir un personnage noir, est-ce que c'est un simple parti pris cosmétique ou est-ce que ça va plus loin?
Pour ma part, j'ai pas l'impression que dans le jeu, je n'ai pas trouvé que dans le jeu ça aille beaucoup plus loin. C'est toujours cette ligne de crête que doivent tenir les studios avec leur gros jeu, hein, qui va consister à inclure le maximum de public en évitant des polarisations trop fortes qui aboutiraient à perdre un segment de leur public. Hein. Dans les stratégies du marketing de la diversité, on n'est pas dans les stratégies du marketing ethnique, donc on va pas s'adresser à un segment du public, on va essayer de s'adresser à l'ensemble du public. Et d'ailleurs, on a entendu Marc-Alexis Côté qui parlait du jeu. C'est intéressant parce qu'il avait dit aussi comme argument que c'était intéressant que le choix du studio se justifiait aussi, hein, à travers le personnage de Yasuke, se justifiait aussi parce que leur idée, c'était de, voilà, on a affaire au Japon, nos jeux s'adressent essentiellement à un public occidental, c'est-à-dire sous-entendu blanc, c'est-à-dire cette conception de l'occidentalité comme étant blanche, alors que nous sommes dans des sociétés multiculturelles et transnationales. Et donc, leur argument, c'était de dire, on va pouvoir proposer aux joueurs occidentaux de découvrir le Japon avec les yeux d'un étranger, puisque Yasuke est étranger au Japon, et puis bon, bah voilà, des personnages historiques marquants qui correspondraient aussi à un petit peu à la génétique du jeu, bah il y en a pas tant que ça pour jouer au Japon, et là, hop, c'est une opportunité extraordinaire. Mais on voit bien aussi ce qu'il y a derrière, finalement, Yasuke devient le véhicule, si vous voulez, de l'expérience de jeu centrée, conçue comme étant centrée sur un joueur occidental, homme blanc, hétérosexuel. C'est d'abord cette norme-là qui sert à déterminer Yasuke, et il devient le véhicule de ce joueur type, davantage que finalement, on s'intéresse pas spécialement finalement à tout ce qu'il peut transporter avec lui d'africanité en particulier. Et puis dans les polémiques, on a vu que c'était aussi un espace qui venait à la fois servir le discours des réacs aux États-Unis, des réactionnaires aux États-Unis qui dénonçaient le jeu, les réactionnaires japonais qui dénonçaient le jeu, disaient voilà, à un moment donné, saccage.
Un temple
shinto, donc c'est pas possible, etc. Il y a une partie du public qui s'est félicité d'avoir un héros noir africain dans un gros jeu, une partie du public qui a regretté que pour une fois, donc en particulier, notamment en France, hein, des militants antiracistes asiatiques qui disaient, bon ben, pour une fois qu'on a un jeu Assassin's Creed qui se passe au Japon, eh bien on met pas un héros asiatique. Vous voyez, donc, et donc il y a aussi toute la façon dont ça devient l'espace d'une mise en compétition des minorités entre elles pour l'accès à la visibilité. Et donc, on voit que ces jeux ne résolvent pas, que ce marketing de la diversité consiste davantage à créer des espaces de mise en compétition des minorités entre elles, hein, dans une logique tout à fait néolibérale, sans finalement répondre aux attentes et aux besoins de la représentation.
Et si on sort d'Assassin's Creed Shadow et qu'on prend d'autres jeux qui mettent où il est proposé aux joueurs de customiser entre guillemets leur personnage, de choisir leur apparence et des caractéristiques physiques pour qu'ils ressemblent à ce qu'on veut, et qu'on choisit un personnage noir, est-ce que ça change quelque chose au déroulé du jeu ?
Non, ça ne change rien. C'est bien ça le drame. Hein. C'est purement, comme vous le disiez tout à l'heure, cosmétique. Et en plus, ça fait peser une injonction sur les minorités. C'est-à-dire, on vous offre la possibilité de customiser un avatar qui vous ressemble. Et donc, faites-le. Mais si on a envie de jouer autre chose, ce qui fait que, si vous voulez, cette norme du joueur type homme blanc hétérosexuel conserve la possibilité et la liberté, d'une certaine manière implicite, de pouvoir jouer ce qu'il veut, y compris dans une forme de tourisme identitaire, hein, comme on l'avait conceptualisé avec Nakamura il y a quelques années, alors que les minorités, finalement, en leur offrant cette possibilité, on leur enjoint d'une certaine manière à choisir un avatar qui leur ressemble. Donc, voyez, c'est toujours un problème, parce que le fond du fond, c'est plutôt la bataille pour cette question de l'hégémonie culturelle. Et davantage que faire une place à la table, c'est de changer la nature de l'ordre autour de la table qui devrait se poser.
Donc des jeux qui ont souvent du mal à rendre tangibles les inscriptions sociales des personnages, comme vous dites, Mehdi Derfoufi. Par exemple, le jeu Red Dead Redemption 2, le fait de jouer un personnage non blanc ne change rien, sauf en mode multijoueur.
J'ai donc créé un petit avatar qui me ressemble. Je joue dans un monde virtuel avec plein d'autres avatars qui ressemblent probablement à leurs homologues réels. Je faisais mon truc en étant le meilleur joueur possible, ok ? Et quelqu'un est passé devant moi en voiture, et dans le chat du jeu, il a dit « Oh, noir de... » Eh bien, oui. Pour être clair, pour la première fois de ma vie, j'ai été victime d'insultes racistes par l'intermédiaire de mon avatar dans un jeu vidéo.
Julie Le Baron, alors il s'agit d'un numériste anglais qu'on vient d'entendre, Johnny Cochrane, qui raconte comment dans les jeux vidéo dans lesquels il joue, on l'entend bien, il se fait souvent lui-même dans la vie réelle, il n'est pas toujours confronté au racisme. Dans les jeux vidéo, il l'est régulièrement. Julie Le Baron, est-ce que d'autres jeux ont provoqué ce genre de polémique, et quels ont été, d'après vous, les premiers signes de cette bataille culturelle concernant spécifiquement les jeux vidéo et les représentations du monde et des gens qu'ils contribuent à véhiculer ?
Alors, je pense que c'est difficile d'aborder toutes ces questions sans remonter au scandale. Enfin, encore une fois, je ne vais pas donner trop d'importance à une minorité très bruyante, mais au scandale du Gamergate dont vous parliez en introduction, qui a éclaté en 2014. Enfin, pour moi, c'est vraiment un point de cristallisation important, un moment vraiment où des communautés de joueurs s'organisent sous donc le hashtag Gamergate pour en gros critiquer les jeux vidéo qui veulent se montrer plus inclusifs.
Est-ce que vous pouvez rappeler comment ça s'est déclenché tout ça ? C'était donc en 2014, et il y avait vraiment déjà des communautés de joueurs, manifestement. Enfin, il y a eu un mouvement de solidarité entre eux pour harceler, en particulier des femmes dans le monde du jeu vidéo.
Alors à l'origine, tout part d'un billet de blog rédigé par un homme qui, c'est vraiment une histoire qui aurait pu être juste l'histoire d'un ex-revanchard et être un cas isolé, mais c'est un billet de blog rédigé par un homme qui accuse son ex-petite amie, en l'occurrence une développeuse de jeux vidéo qui s'appelle Zoe Quinn, de l'avoir notamment trompée avec un journaliste de la presse vidéoludique en vue d'obtenir des critiques positives sur son dernier jeu à elle. Alors, l'idée d'origine du mouvement, c'était de critiquer la déontologie des journalistes spécialisés, ce qui en soi n'est pas du tout une critique idiote, même si évidemment les accusations dont Zoe Quinn a fait l'objet sont totalement fausses, ça a été démontré plus tard. Mais il y a effectivement un mélange des genres au sein du journalisme spécialisé. Il y a eu plusieurs polémiques autour de ça, mais en gros des critiques de jeux vidéo qui sont payées par des éditeurs et ne peuvent pas livrer en aucun cas une critique objective d'un jeu, quoi. C'est, on ne peut pas parler d'Halo 4 de manière objective en tant que journaliste si on est payé par le studio qui a développé Halo 4, quoi. Et donc à la base c'est ça, c'est donc critiquer quelque chose de réel, l'absence de déontologie de certains journalistes, mais c'est devenu en fait au fil du temps une campagne de harcèlement contre plusieurs femmes de l'industrie, en l'occurrence Zoe Quinn, mais aussi plusieurs femmes qui l'ont défendue, notamment Anita Sarkisian, qui est donc une critique média qui commente beaucoup les jeux vidéo sous l'angle du féminisme, et qui ont reçu malheureusement beaucoup de menaces de mort, et qui ont même été accusées plus tard d'avoir profité de ce harcèlement, profité entre gros guillemets, pour gagner en visibilité par la suite. Enfin, c'est... Et ça, un scandale assez déplorable.
Et ça, pour vous, c'est un tournant, avez-vous dit en propos liminaire. Pourquoi ?
Parce que il y a, alors je pense que ce genre de critique existait déjà, mais là il y a vraiment un côté des joueurs qui se fédèrent autour d'un mouvement sous une bannière très claire, donc celle du Gamergate, et qui donc commence à vraiment entamer une croisade contre tout ce qui ne leur ressemble pas dans les jeux vidéo, pour résumer à gros traits.
Parce que
c'est
joueurs...
plutôt le côté organisation, quoi, qui a été marquant à l'époque, je trouve.
Ces joueurs ont harcelé, non pas lâché, Zoe Quinn. Elle en parlait en décembre 2024 dans l'émission Affaires Sensibles de France Inter.
Immédiatement, ils se sont mis à chercher où est-ce qu'elle vit, où est-ce que vivent ces gens, qu'est-ce qu'on va faire avec elle, est-ce qu'on peut pirater ses mails tout de suite. Et puis, ils ont commencé à créer tous ces comptes pour me crier dessus sur Twitter, pour parler de détails personnels vraiment abjects, pour faire des photoshops de moi et pour faire des commentaires sexuels vraiment dégoûtants. À ce moment-là, vous perdez toute perspective. C'est comme si vous étiez constamment entouré de haine, c'est violent et c'est omniprésent.
Alors, est-ce qu'on a une idée de la part que représentent ces joueurs virulents et verbalement haineux par rapport au nombre de joueurs en tout? Parce qu'on dit toujours, Julie Le Baron, que c'est une minorité qui a beaucoup de voix, une minorité qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de place. Mais comment on le sait, comment on en est sûr que c'est vraiment une minorité?
Alors, je n'ai pas de chiffre exact du nombre de personnes qui composent ces mouvements, mais par exemple, dans le cas de Sweet Baby Inc. que j'avais évoqué tout à l'heure, le serveur Discord rassemblait à peu près 80 000 personnes, les personnes qui appelaient au boycott de certains jeux. Donc ça reste une part minime, même si c'est déplorable de voir qu'ils sont aussi nombreux.
Pour Assassin's Creed Shadows, par exemple, l'Observatoire européen des jeux vidéo avait dénombré en février plus de 850 000 mentions négatives sur Internet et plus de 17 millions d'engagements en tout. Et des chercheurs en France, comme David Chavalaria, sont vraiment étudié comment, à partir de certains tweets, messages sur les réseaux sociaux, X, Twitch ou n'importe quel autre réseau social, bah, tout ça peut prendre une ampleur inédite, mais véhiculée d'abord par toujours un peu les mêmes cercles. C'est une cartographie très intéressante à lire, Mehdi Derfoufi. Mais par ailleurs, aujourd'hui, comment côté communauté de joueurs, et aussi sans doute de joueuses qui ne se contentent pas de trouver qu'on en fait trop en matière de représentativité et d'inclusion, mais qu'ils font savoir haut et fort, qui mènent ces campagnes de harcèlement, voire tentent de faire annuler la sortie de certains jeux, est-ce qu'on sait aujourd'hui, comment ces communautés se montent, se créent, s'organisent?
Oui, c'est une question d'autant plus importante, je trouve, qu'il faut pas non plus, du fait qu'on parle d'une minorité agissante et bruyante, il faut pas non plus négliger le fait qu'elle trouve aussi une chambre d'écho pour se faire entendre davantage. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut rappeler. C'est pas parce que c'est une minorité agissante qu'elle ne trouve pas à agir dans un système qui lui est favorable. Qui ne lui est pas favorable, je veux dire. Hein. Au contraire, le système lui est favorable à cette minorité agissante. Donc, la contrepartie, de l'autre côté, eh bien, c'est toutes les communautés qui vont chercher à promouvoir une autre vision du jeu et d'autres conceptions aussi des relations sociales et humaines, on va dire. C'est comment, effectivement, elles vont réussir à s'organiser. Alors, elles peuvent s'organiser sur la base d'affinités identitaires et communautaires. Elles vont dire, par exemple, nous sommes des joueuses queer et donc on décide de se rassembler pour créer aussi une sorte de force collective pour résister précisément à ces déchaînements de harcèlement et d'attaques qui se déclinent aussi bien sur les forums quand on prend la parole que dans le jeu en ligne par exemple, ou aussi parfois dans des espaces de jeux très concrets. Vous allez parler demain de l'e-sport par exemple. Donc ces communautés vont s'organiser sur des bases identitaires et communautaires d'abord pour créer des solidarités et aussi pour créer des espaces où il est possible de façon sécure eh bien, de jouer autrement et de parler autrement du jeu vidéo. En France, on a des collectifs comme Afrogameuse, par exemple, qui se sont organisés sur la base de la visibilisation des joueuses afrodescendantes. C'est des propositions de ce type qui montrent aussi que, en fait, la galaxie des communautés vidéoludiques est beaucoup plus diverse que cette minorité qui ne supporte rien d'autre qu'elle-même.
Women in Games, Afro-Gamers, Mauvaises Herbes, les Game Dolls Advance, entre autres noms de collectifs de joueurs, joueuses ou joueureuses, comme vous dites, puisque Game Dolls Advance, c'est un collectif de joueuses transgenres qui aujourd'hui essaye de peser dans les discussions sur les questions de représentativité dans les jeux vidéo. Mais comme vous dites, ce sont toujours les mêmes qu'on entend, les plus virulents, les plus violents, avec des tactiques de trolling déjà ancienne et très forte dès le début des années 2010. On sait que Steve Bannon, par exemple, avait repéré quelques figures spécialisées dans les raids contre les comptes féministes à l'époque du Gamergate dont nous parlait Julie Le Baron. Et on sait qu'il les avait recrutées. Pour quelle mission, enfin, quelle place ont-ils aujourd'hui dans les États-Unis de Donald Trump? Est-ce que l'un ou l'autre a une réponse à cette question?
Aujourd'hui, je ne saurais pas dire exactement aujourd'hui si des personnalités du mouvement, parce que j'ai arrêté de regarder ce mouvement-là depuis un moment.
Pour votre santé.
Si des personnalités du mouvement, oui, à un moment donné, c'est important aussi, occupaient des fonctions dans l'administration Trump. En tout cas, le recrutement avait pour but de jouer un rôle d'influence auprès du public jeune, qui pouvait constituer non seulement un soutien à Trump en termes de vote, bien sûr, mais surtout en termes d'influence et de diffusion des idées.
Alors, participent à ces discussions en ligne, y compris des personnes qui ne jouent pas au jeu incriminé. Vous en voulez, pour exemple, dans votre livre, la polémique qui avait entouré le commentaire d'un journaliste du magazine spécialisé Joystick sur le viol de Lara Croft dans le reboot, comme on dit, la version de 2013. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Quelle réaction avait-il suscité? Et je ferai réagir aussi Julie Le Baron sur cette histoire.
Alors, sur liste.
Pardon. Oui, allez-y, Médida Foufi, pardon.
Non, si Julie veut...
Oui, bah alors, comme vous voulez. Vous êtes tous les deux à distance. Je précise pour les auditeurs, c'est pas toujours très simple. Ok, allez-y.
Non, mais le cas de Lara Croft est vraiment, vraiment très intéressant parce que c'est donc quand même une des figures féminines les plus importantes du jeu vidéo, mais qui a aussi été maintes fois critiquée parce que sa représentation satisfait aussi le male gaze, entre guillemets. Enfin, c'est un
Qu'est-ce que c'est le male gaze, pardon?
Bah, le regard masculin, en tout cas. Enfin, les, par exemple, beaucoup de... Beaucoup de personnes estiment que Lara Croft a aussi été taillée pour un public masculin, c'est-à-dire que c'est une femme assez belle, qui est sexualisée à plusieurs reprises dans les jeux, même si c'est une représentation qui a évolué au fil du temps. Et alors dans le reboot de 2013, il y a eu une dimension un petit peu plus horrifique donnée à la franchise, où on voit vraiment Lara Croft subir des scènes de torture, des scènes assez insoutenables. Et donc le magazine Joystick à l'époque avait fait une critique où ils évoquaient un calvaire charnel pour parler de ce que subissait Lara Croft, et ça avait notamment beaucoup fait réagir. Notamment il y avait eu Marlar, donc qui avait écrit un billet de blog sur son site qui s'appelait Ça fait Jean et qui avait beaucoup fait parler à l'époque.
Qui est Marlar et pourquoi ça avait fait parler? C'est-à-dire qu'il n'avait pas employé le mot de viol, c'est ça? Il disait carnage sexuel au lieu de... Enfin, il tournait autour du pot.
Bah, c'était le côté minimisé, ouais, voilà, minimisé des scènes de torture ou de viol supposé. Je me souviens plus exactement de la scène du Lara Croft de 2013, mais en tout cas, de juger que le fait que ce personnage féminin souffre soit excitant. Enfin, c'est le terme qui avait été employé à l'époque.
D'accord. Et cette affaire-là, pareil, est-ce que vous dites que le personnage de Lara Croft a plutôt évolué au fil des années? Est-ce que globalement, les personnages féminins, vous les avez vus également évoluer dans les jeux vidéo?
Oui, bien sûr. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a de plus en plus de personnages féminins divers. Même s'il faut avouer quand même que ça fait longtemps qu'il y a des femmes jouables dans le jeu vidéo, même si elles étaient vraiment minoritaires par rapport aux personnages masculins. Mais dès 86, on avait des personnages comme Samus Aran dans Metroid. Mais le cas de Lara Croft, il est intéressant à commenter parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle itération de Tomb Raider, le physique de Lara Croft est scruté. C'est-à-dire qu'on va voir des commentaires juger que sa poitrine est trop petite par rapport aux épisodes précédents, que ses vêtements sont pas assez révélateurs, son visage pas assez féminin, et ça c'est encore des discours que j'ai pu voir à l'occasion des deux dernières bandes annonces des jeux Tomb Raider qui vont bientôt sortir. Il y a vraiment ce sentiment de cycle qui revient à chaque fois que Lara Croft arrive, quoi. Enfin, revient.
L'année dernière aussi, la sortie de Stellar Blade avait provoqué des joutes verbales sur les sites spécialisés entre ceux qui trouvent que l'héroïne est une caricature de poupée sexualisée dans sa combinaison ultra moulante, je reprends les mots utilisés sur ces forums, et ceux qui répondent qu'il préfère ça à une femme moche. Voilà le niveau à peu près des débats aujourd'hui. Alors en Asie, apparemment, beaucoup n'ont pas compris les reproches faits à ce jeu parce que le personnage féminin reprend en fait les codes des héroïnes de manga et les fans ont prié les Européens de se mêler de leurs affaires. Donc on entend bien aussi, Médida Foufi, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, que chacun va chercher dans les jeux vidéo à la fois ce qui les fâche, ce qui les arrange, en tout cas que ces questions ne sont pas l'apanage des éditeurs de jeux et des joueurs occidentaux.
Oui, et puis la production d'une image, c'est une chose, et les conditions de sa réception, c'en est une autre. On peut revendiquer la japanité du manga, mais on ne peut pas négliger non plus les généalogies des influences occidentales sur le manga, par exemple. On le sait, Osamu Tezuka, la représentation des Noirs dans ses mangas n'était pas très différente des caricatures racistes, et pour tout un tas de raisons, hein, des caricatures racistes américaines. Donc, vous voyez, il faut aussi rappeler que on ne peut pas analyser et comprendre une image sans analyser les conditions de sa réception de façon un petit peu complexe. C'est pareil pour Lara Croft, hein, il y a aussi des réceptions féministes, hein, de Lara Croft, qui voit aussi un personnage qui échappe et contrevient à un certain nombre de normes. D'ailleurs, dans la série, j'ai juste commencé à la regarder, Tomb Raider, là, sur Netflix. Je sais pas comment ça évolue, mais au début de la série, en tout cas, il y a aussi des allusions au fait que peut-être elle serait pas tout à fait hétérosexuelle, quand même. Donc, vous voyez, c'est des personnages qui dépassent non seulement le cadre du jeu, parce que ça devient des icônes de la pop culture, mais qui échappent aussi, finalement, aux conditions de leur création, qui sont sans aucun doute celles que Julie rappelait à l'instant, hein, celles du, on va dire, du regard masculin porté sur une figure féminine objectifiée, c'est aussi quelque chose qui échappe au créateur, finalement, à un moment donné, à cause de la réception et de la façon dont les publics vont s'emparer de ces icônes de la pop culture pour aussi les resignifier et en faire autre chose.
Alors, on a, depuis le début de cette série sur les jeux vidéo dans Culture Monde, on a entendu à plusieurs reprises les invités dire à quel point il était facile aujourd'hui de créer des jeux vidéo, qu'il y a une forme de démocratisation de la création du jeu vidéo. Est-ce que, Julie Le Baron, tout ça change quelque chose dans l'approche qu'on a de plus en plus dans les jeux vidéo, ceux qui ne sont pas créés, notamment, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Japon, pour citer les créateurs les plus prolifiques en la matière? Il y a d'autres studios qui émergent, que ce soit en Indonésie, par exemple, c'est vous qui nous l'avez appris en préparant cette émission, en Pologne également. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans les représentations que les jeux vidéo donnent du monde?
Bah, justement, ouais, avec l'émergence, enfin, comment dire, la démocratisation des outils de production de jeux vidéo, ça reste toujours difficile aujourd'hui de produire un jeu vidéo, mais les outils, les moteurs de jeu, en tout cas, sont devenus plus accessibles. Il y a aussi, comment dire, des manières de financer des jeux vidéo alternatives. Enfin, on a vu ça avec notamment l'émergence du crowdfunding. On arrive aujourd'hui, en tout cas, je trouve, à un stade où des studios peuvent émerger dans plein de pays différents avec des histoires différentes qui vont s'attarder sur leur culture, leur propre histoire. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que pendant un temps, le jeu vidéo était pensé pour un public essentiellement masculin et occidental. Donc l'idée en sous-texte était de se dire en fait, ça ne sert à rien de parler de votre culture, de votre pays, si en gros, ça ne concerne pas ce public-là. Et là, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeux indépendants, notamment, je trouve qu'un cas emblématique, c'est celui de Hong Kong, parce que pendant très longtemps, Hong Kong a été une sorte de décor futuriste pour fiction occidentale. Enfin, je cite par exemple Blade Runner, il y a eu aussi récemment le jeu Stray en France, mais il y a aussi toute une scène de développeurs issus de la diaspora hongkongaise qui font des jeux qui racontent leur propre histoire. C'est le cas par exemple de A Thousand Time Resist, qui est un jeu qui a eu un fort écho et qui s'inspire notamment des manifestations qu'il y a eu à Hong Kong entre 2019 et 2020. Et on voit de plus en plus de récits, excusez-moi, extrêmement spécifiques en tout cas, mais qui se déroulent dans un cadre spécifique, mais vont porter un récit suffisamment universel pour qu'il résonne auprès de joueurs issus de pays différents.
Avec en Pologne, par exemple, des studios indépendants qui parlent vraiment de l'histoire de leur pays, qui prennent comme décor leur paysage, leur ville, comme au Japon aussi la franchise Silent Hill qui s'est toujours déroulée aux États-Unis jusqu'à présent alors que le jeu est polonais et dont le dernier opus sorti en 2022 se passe au Japon. J'ai dit une bêtise ?
Pas tout à fait. En fait, en gros, Silent Hill, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été vu vraiment comme une franchise commerciale à l'origine, faite par une équipe japonaise. L'idée, c'était de concurrencer une autre franchise de survival horror, Resident Evil. Et donc, cette franchise se déroulait dans une ville américaine, dans un cadre moderne, très inspiré des romans de Stephen King et de la filmographie de David Lynch, notamment. Et en fait, au fil du temps, la franchise a fini par être confiée à des studios américains. Puis plus tard, donc vous parliez de la Pologne, il y a eu un studio polonais donc qui a fait un remake d'un jeu initialement conçu par une équipe japonaise. Mais c'est seulement cette année qu'on a pu voir donc la franchise Silent Hill se dérouler au Japon. Donc pour moi, il y a une espèce de retour aux sources assez intéressant. C'est-à-dire que cette franchise née au Japon, qui se déroule aux États-Unis, et aujourd'hui peut se permettre de se dérouler au Japon, ce qui était vu comme un argument pas très commercial à l'époque.
Il y a aussi aujourd'hui des studios africains qui se font une place dans le jeu vidéo et qui se concentrent sur des univers africains. On en parle dans le Focus avec Teddy Kosoko, jusqu'après ce petit clin d'œil de Barclay James Harvest. You Like de Barclay James Harvest, chanson de 2018. Super machine impitoyable qui prend le contrôle de tous les enfants que vous avez jamais vus, scotchés à l'écran, tapant frénétiquement sur les boutons comme dans un rêve. Donnez-moi la radio qui joue toutes les chansons que je connais, je ne veux pas de Game Boy, juste du rock'n'roll, chante le groupe britannique Barclay James Harvest. Le clin d'œil malicieux de Vivian Lecuivre, réalisateur de Culture Monde. C'est le troisième épisode de notre série sur les jeux vidéo, une passion mondiale. Aujourd'hui, la question de la représentation dans les jeux vidéo et cette forme de bataille culturelle qui se joue dans ce secteur-là aussi. La majorité des jeux vidéo sont aujourd'hui produits en Asie, en Europe et aux États-Unis, mais des studios africains se font aussi leur place, qui se concentrent sur des univers africains.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
A long, long time ago, right in the center of Africa, two great and powerful neighboring kingdoms fought over a certain valuable river.
La bande-annonce du jeu Kisoro, premier jeu vidéo développé par le studio Maseka Game, basé à Toulouse, mais créateur de jeux 100% africains, comme le dit son fondateur, qui est en ligne avec nous. Bonjour Teddy Kosoko.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Kisoro, c'est le nom de ce jeu, c'est aussi le nom d'un jeu de plateau centrafricain, très joué sur le continent et même au-delà. En jeu vidéo, qu'est-ce que ça donne, juste pour qu'on puisse, pour débuter cette discussion, avoir un peu des images de ces jeux?
Alors Kisoro, c'est un équivalent du jeu connu en France sous le nom de La Wallée. Donc c'est un jeu de plateau avec des cases et des pions. Et c'est un jeu de stratégie joué depuis des millénaires. Et nous avons, en fait, à l'époque, j'étais étudiant et j'ai voulu digitaliser ce jeu, rajouter une histoire dessus et partager cette histoire avec le monde.
Et oui, c'est un jeu de stratégie et de réflexion que vous ne vous êtes pas contenté de numériser. Vous avez imaginé un univers tout autour, l'histoire de deux royaumes qui s'affrontent pour contrôler un fleuve et le joueur est dans la peau d'un orphelin dont les parents sont morts dans cette guerre. Quel conflit historique ou contemporain vous inspire? Comment vous travaillez avec vos équipes à intégrer le plus d'éléments non fictionnels, des éléments de contexte les plus précis possibles?
Alors, pour le contexte, j'ai vécu en Centrafrique, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et je suis arrivé en France en 2012, j'avais 18 ans. Et à Bangui, en Centrafrique, on a vécu un certain nombre de crises et donc je me suis d'abord inspiré de ces différentes crises, des coups d'État, etc. Mais aussi, on a tendance à utiliser les différents conflits qui marquent le continent africain. Assez fréquent hein, dans plusieurs pays. On a des fois le nord et le sud qui s'affrontent. On a l'exemple du Soudan. On a aujourd'hui par exemple la Libye qui est fracturée en deux ou en plusieurs morceaux d'ailleurs. Donc c'est des éléments qui reviennent souvent et qu'on a décidé de mettre en valeur dans ce jeu.
Vous travaillez aussi avec des chercheurs et chercheuses du CNRS, des historiens qui jouent le jeu d'ailleurs sans mauvais jeu de mots, parce qu'il faut peut-être les convaincre de mettre leurs connaissances à profit pour des jeux vidéo et leur parler de l'importance de ces jeux aussi pour véhiculer d'autres représentations.
On a été agréablement surpris.
Ah non, j'ai cru qu'on avait été coupé. Pardon, vous avez été agréablement surpris. Excusez-moi.
Il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai été agréablement surpris d'avoir toujours eu des retours positifs des scientifiques, soit des chercheurs, par exemple du CNRS, du laboratoire Alican, qui nous ont aidés pendant un certain nombre d'années sur certains jeux, à nous mettre à disposition énormément de documentation. Parce que souvent, en fait, on se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte, mais la France a quand même beaucoup de chercheurs qui ont travaillé dans beaucoup de pays africains, aussi dans le monde, qui aujourd'hui ont beaucoup de connaissances, qui sont là et qui dorment, et qui attendent juste à ce que toutes ces connaissances soient valorisées.
On les invite souvent dans Culture Monde et on les aime beaucoup aussi, de toute façon. Vos jeux sont aussi parsemés de croyances superstitieuses. Peut-être que l'entraîneur de l'équipe de foot du Nigeria a trop joué à vos jeux pour se permettre aujourd'hui d'accuser celle de la RDC d'avoir enterré des gris-gris sous les cages de tir avant le match de qualification pour la Coupe du Monde en novembre. Qu'est-ce que c'est un jeu vidéo africain, au-delà de l'esthétique et de la musique? Jusqu'où est-ce qu'il peut être dans ces codes, Teddy Kosoko?
Alors, je pense qu'un jeu vidéo africain va d'abord se détacher par son scénario, par son histoire et par l'ambiance globale que ce jeu va essayer d'apporter. On a pendant très longtemps vu les mêmes scénarios répétitifs qui vont dans, par exemple, côté FPS, donc les jeux de tir, les jeux de guerre, où c'est toujours le monde occidental qui va aller sauver le monde, etc. Et aujourd'hui en Afrique, la plupart des créateurs qui veulent partager ce continent essaie d'utiliser les mythes, les légendes locales, parler des peuples autochtones, parler des divinités pour apporter cela au monde. Mais l'Afrique, c'est aussi de la musique, de la sonorité, c'est aussi beaucoup de visuels. Les gens aujourd'hui, en fait, avant même de rentrer dans le scénario, ils vont essayer d'avoir un visuel qui soit totalement différent de ce qu'ils connaissent par rapport à l'Occident, par rapport à l'Asie. Et c'est avec ça que le jeu vidéo africain, entre guillemets, se détache aujourd'hui.
Est-ce que vous créez aussi des jeux de guerre et des jeux de combat, justement, avec d'autres représentations?
Alors, des jeux de guerre, on en a fait un certain nombre, mais plutôt mobile, parce qu'on est très spécialisé dans le mobile. Et là, on est en train de faire un jeu de combat qui s'appelle Jabari, qui veut utiliser, qui est en train d'utiliser les artistes, les chanteurs, les rappeurs, les sportifs, en Afrique, mais aussi en France, parce qu'on a une grosse... en fait, la France est quand même un pays avec beaucoup... avec une scène musicale très, très forte, mais aussi cette scène musicale est très liée à l'Afrique, avec des chanteurs comme Gims et beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, on a ce jeu de combat qui s'inspire d'un jeu qui a vu le jour aux États-Unis, Def Jam. Donc on est en train d'essayer de faire l'équivalent et raconter toujours des histoires africaines par-dessus.
Avec Gims et Caris, donc, dans votre prochain jeu, qui devront s'affronter pour dominer une industrie qui les exploite, si j'ai bien compris le thème de votre jeu qui est prévu pour fin 2026. Est-ce que vous considérez faire de la politique, de l'infrapolitique en concevant des jeux vidéo? À quels joueurs vous adressez-vous? À quoi souhaitez-vous ouvrir leur cœur et leurs esprits?
Alors, déjà la première chose, c'est que pour Gims et Caris, c'est pas encore totalement signé, c'est en discussion, même si
donc j'ai révélé quelque chose qu'il fallait pas dire. Pardon.
Non, c'est pas très grave. Ils sont totalement entre guillemets d'accord pour le jeu, le principe, etc. Donc c'est juste cette discussion encore en cours. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est des choses qui intéressent les artistes ce sont de nouveaux médias pour ces artistes-là. Si on prend le cas par exemple des États-Unis, où on a dernièrement des Kim Kardashian Kim Kardashian qui vont aller dans Fortnite, bah pour les artistes français, c'est un nouveau média dans lequel ils vont pouvoir aussi s'exprimer et mettre en valeur leur talent. Et pour répondre à votre deuxième question.
Oui, vous faites une forme d'infrapolitique en fait. D'ailleurs, est-ce que les questions politiques du continent africain et vous êtes originaire de République démocratique du Congo ou par ailleurs de la Centrafrique, vous nous l'avez dit tout à l'heure, pardon, je suis désolée. Les questions minières sont quand même très importantes en Centrafrique. Ouais. On est dans une forme d'état failli aujourd'hui. Enfin, est-ce que tout ça ressurgit dans vos jeux?
Alors, je me suis toujours positionné comme quelqu'un d'assez politique, et je pense que tout ce qu'on fait dans les jeux vidéo est là pour essayer de soit déconstruire ou soit raconter ou soit sensibiliser. Je pense moi personnellement que les jeux vidéo sont un moyen très puissant pour raconter de nouvelles histoires, de raconter aussi certaines choses qui se passent dans le monde et que les gens ne voient pas ou ne comprennent pas. Et en parler récemment, vous en avez parlé dans l'émission au début avec Assassin's Creed qui raconte l'histoire des fois de la France, de l'Asie et de certains pays dans le monde. On essaie d'utiliser les mêmes moyens parce que aujourd'hui les gens jouent énormément, les gens jouent beaucoup et c'est un moyen pour toucher beaucoup de personnes très très rapidement. Et on sait aussi qu'aujourd'hui il y a plein de pays qui utilisent le jeu vidéo comme outil de propagande. Si je prends l'exemple de ce qui se passe dans le monde, il y a la Russie qui avait fait un jeu Africa Corps, distribué un peu partout sur le continent africain, mais aussi un peu partout dans le monde. Et même les États-Unis qui utilisent le jeu vidéo pour la propagande des États-Unis, pour montrer les Américains tout puissants, qui vont sauver le monde tout le temps. Et dans la tête des gens, les gens vont penser que les Américains sont forcément et toujours les sauveurs du monde. Et donc, nous, on veut vraiment changer cela. Ou, par moment, on va voir un Africain, un Noir qui va sauver le monde. Et on sait pertinemment, de par les retours qu'on a, que ça a des impacts très forts sur les différentes populations.
Une dernière question, Teddy Kosoko. Où sont distribués vos jeux? Quels sont vos plus gros marchés? Est-ce que vous réussissez à toucher des gamers sur le continent africain?
Alors, l'Afrique est un nouveau marché, comme j'ai tendance à le dire. C'est un marché qui est en cours de développement. Aujourd'hui, on fait deux choses. On fait donc une production, donc on crée des jeux vidéo et on travaille beaucoup. On est identifié aujourd'hui comme étant un acteur qui est en train de structurer le marché pour ouvrir le marché. Donc, globalement, les chiffres, c'est 60% des gens qui jouent à nos jeux qui sont en Occident, mais aussi 40% en Europe. Et on essaie de par tout ce qu'on fait, les systèmes de paiement, les canaux de distribution, de permettre à un plus grand nombre en Afrique d'accéder à ces contenus, mais surtout de les payer.
Merci beaucoup Teddy Kosoko. J'ajoute qu'il y a d'autres studios qui développent des jeux vidéo aujourd'hui. Kiro Games au Cameroun, dont le jeu Orion est sorti sur Xbox. Il y a aussi les Sud-Africains 24-Bit Games ou Carry First, mais qui ont été rachetés par des éditeurs états-uniens. Le Nigérian Malio Games. L'Afrique du Sud, depuis quelques années, organise régulièrement une Africa Games Week. Et vous êtes, quant à vous, président fondateur du studio Maseka Game. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Mehdi Derfoufi, je voulais juste conclure cette émission sur quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de raconter, qui est dans votre livre « Racisme et jeux vidéo » paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Teddy Kosoko parlait de ces jeux comme outils de propagande, on en a également un peu parlé hier. Il y a eu déjà, dans les années 80 et 90, des jeux vidéo qui ont posé extrêmement problème. On ne peut pas dire que c'était des outils de propagande, mais propagande d'une certaine idée qui aujourd'hui a pris beaucoup plus de place. Ce sont des jeux qui étaient ouvertement d'extrême droite, pour le dire vite, dont on peut pas contester ça, Custer's Revenge ou KZ Manager. Est-ce qu'on peut en dire un mot?
Oui, même si c'est encore une fois leur accorder une importance qu'ils n'ont culturellement peut-être pas eue.
C'est vrai, vous avez raison. On peut couper là tout de suite la réponse pour arrêter de leur donner de l'importance.
Ce sont des jeux racistes, néo-nazis, tout simplement, et qui n'ont pas été d'énormes succès commerciaux, mais qui entretiennent à l'intérieur des communautés vidéoludiques une forme de sphère d'influence sur ces sujets-là, ces questions idéologiques-là, qui sont voilà, qui sont du côté de des néo-nazis et des masculinistes, etc. Voilà.
Et ceci dit, j'intègre vraiment ce que vous venez de dire. Le simple fait d'avoir cité leur nom, ce que j'ai fait, leur a donné de l'importance, et c'est une bonne leçon que vous me donnez, et que j'invite les auditeurs et auditrices à se poser la question aussi de la place qu'on donne parfois à des sujets simplement en posant la question sur leur existence. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Mehdi Derfoufi, je rappelle le titre de votre livre, Racisme et jeux vidéo, paru aux éditions Maison des Sciences de l'Homme. Vous êtes maître de conférence en études culturelles à l'Université Paris 8. Merci beaucoup Julie Le Baron, rédactrice en chef de Canard PC, magazine en ligne dont on met les références et le lien sur notre site. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale, Adrien Toffelet.
Et vous nous parlez des Birmans qui se préparent aujourd'hui sans envie à voter pour la première fois depuis 2021.
Des élections générales sont organisées, élections législatives qui vont se dérouler en plusieurs phases à partir de ce dimanche et se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier. Ce sont les premières depuis que la junte militaire, par un coup d'État en février 2021, a mis fin à une parenthèse démocratique de 10 ans, plongeant le pays dans une guerre civile et la répression de plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques sous les verrous. Mais ces élections, de l'avis de l'ensemble des observateurs, l'ONU en tête, et de la presse du monde entier, n'ont aucune crédibilité. Elles n'ont pas pour but d'ouvrir une nouvelle page démocratique dans le pays, mais de permettre à la junte de légitimer son pouvoir, peut-on lire sur le site de la radio en exil Democratic Voice of Burma. Et ce, même si l'homme fort du pays, le général Min Aung Hlaing, a encore répété ces derniers jours qu'il confiera le pouvoir au vainqueur. Le quotidien The Irrawaddy, également en exil, rappelle que la constitution rédigée par la junte octroie automatiquement un quart des sièges aux militaires, ce qui signifie que leur allié, le Parti de l'Union, de la Solidarité et du Développement, n'a besoin que de 26% des suffrages pour que le pouvoir actuel garde le contrôle du pays, un score tout à fait réalisable puisque l'opposition a été largement réprimée. Néanmoins, l'enjeu pour la junte, c'est celui de la légitimité, donc de la participation. Or, les militaires, depuis le début de la guerre civile, ont perdu le contrôle d'une grande partie du pays aux mains de groupes armés pro-démocratie et de milices ethniques qui ont annoncé qu'ils boycotteraient le scrutin. Le Times et la BBC racontent alors la pression qui pèse sur la population, les menaces à la fois des milices armées qui les incitent à ne pas voter et les menaces des militaires pour qu'ils se rendent aux urnes, car comme le formule le général Min Aung Hlaing, refuser de voter revient à rejeter le progrès vers la démocratie. La BBC rapporte le témoignage notamment d'une jeune femme qui a fui son village sous les bombardements du régime. Si nous sommes arrêtés et que nous refusons de voter, ils nous mettront en prison et nous tortureront. Nous nous sommes enfuis pour ne pas avoir à voter. Et puis voter pour qui? De toute façon, la plupart des partis autorisés à présenter des candidats ont des liens avec les militaires. Selon le Guardian, 57% des partis présents lors des dernières élections générales en 2020 n'existent plus, alors qu'ils avaient gagné 90% des sièges. Parmi eux, la Ligue nationale pour la démocratie, Aung San Suu Kyi, qui a été dissous par la junte. L'ombre de l'opposante plane sur ces élections, elle est toujours emprisonnée, mais son état de santé inquiète. Elle a 80 ans et sa prison a été ravagée par un séisme en mars dernier. Personne parmi ses proches n'a vu l'ancienne prix Nobel de la paix depuis 2 ans. Et si les militaires restent silencieux sur son sort, analyse le journal Minzima, c'est parce que leur plus grande peur n'est pas qu'Aung San Suu Kyi soit vivante, mais qu'elle soit morte. Un régime autoritaire craint toujours la création d'un martyr dont la mort en détention anéantirait tous les espoirs de légitimité.
En Tunisie, Adrien, la presse annonce un mini-séisme syndical.
Oui, c'est le titre d'un article du courrier de l'Atlas qui relate la démission hier de Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, syndicat qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2015 pour sa contribution à la transition démocratique après la chute de Ben Ali et qui, dans la Tunisie d'aujourd'hui, constitue le dernier acteur politique et social majeur face au président autocrate Kais Saied. Noureddine Tabboubi dirige la puissante centrale syndicale depuis 2017. mais des conflits en interne ont émergé ces dernières années et cela fait plusieurs semaines déjà, rapporte Business News, que des rumeurs de démission circulaient sur fond de désaccord sur la stratégie à adopter face au pouvoir. Certains, écrit le courrier de l'Atlas, lui reprochent une personnalisation excessive du pouvoir syndical et une politisation accrue de l'UGTT au détriment de sa mission sociale traditionnelle. L'opposition en interne demande donc un congrès en mars prochain. Mais il est vrai que le syndicat s'est rapproché ces dernières années des partis d'opposition, lesquels sont persécutés depuis le coup de force de Kais Saied en 2021, qui s'est progressivement arrogé les pleins pouvoirs et a fait emprisonner les principales voix critiques dans le pays. L'UGTT, qui avait apporté un soutien sous condition au président en 2021, a depuis défendu une ligne dure face au pouvoir, rappelle le courrier de l'Atlas. Le dialogue social a été rompu et le 21 janvier prochain aura lieu la première grande grève générale depuis la dérive autoritaire de Saied, avec notamment pour mot d'ordre la défense du droit de négociation collective et du droit syndical. Et Business News soupçonne le pouvoir d'avoir soufflé sur les braises de la discorde avec des partisans du régime qui ont alimenté les réseaux sociaux de fausses informations ces dernières semaines. À moins d'un mois de la grève générale dangereuse pour Kais Saied, cette démission effectivement tombe étrangement à pic.
Merci Adrien Taufollet.